bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Carnets de Comaguerre. En compagnie de Roselyne, ma complice, que je salue, que je remercie, et toujours, bien sûr, de Sidi, que je remercie.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Sidi, merci d'être avec nous, toujours fidèle. Je vais commencer par évoquer un sujet que je n'ai pas abordé, mais je vais l'aborder sous le plan de la com-élyséenne, appelons ça comme ça, tout le monde comprendra. Il s'est tenu, donc, il y a 15 jours, je crois, un sommet Afrique-France. Alors, regardez, on avait changé le sens des mots, hein, comme c'était bien vu. Hein, ce n'était pas la France et l'Afrique, c'était l'Afrique et la France. Bon, alors, effectivement, les Africains étaient... Enfin, le nombre de pays que la France embête avec son néocolonialisme, il est plus important que la France toute seule. Hein, mais elle en embête beaucoup, quand même, encore. Bon. C'est en train de changer, je vais y revenir. Et donc ce sommet France-Afrique, qui s'est... Afrique-France, pardon. Alors tant pis, vous avez bien compris de quoi il s'agit. C'est tenu à Montpellier. Et je voulais simplement m'arrêter, pas sur son contenu, mais sur son changement de style. D'abord, le changement de l'appellation. En soi, on est en plein dans la com, c'est-à-dire le produit se vend mal, le produit France-Afrique, il se vend de plus en plus mal. Il y a des manifestations contre le produit France-Afrique et contre la France-Afrique elle-même, au Mali, à différents endroits. Bon, donc on change le nom du produit pour le mettre sur les mêmes gondoles, c'est-à-dire le néocolonialisme français, mais ça s'appelle Afrique-France. Et on arrive à recruter un certain nombre de gens, des intellectuels de qualité, je le regrette pour eux, des gens du milieu des affaires, des gens du milieu du spectacle, pour parler de leur Afrique, celle dans laquelle ils vivent, dans laquelle ils gagnent leur vie, etc., dans laquelle ils sont connus. Et en fait, l'opération est la suivante, c'est que quand vous changez Afrique France à la place de France-Afrique, vous enlevez les vieux chefs d'État, j'insiste, que la France-Afrique a mis en place et qui sont toujours là, et qu'elle protège par tous les moyens, y compris militaires, pour qu'ils continuent à rendre des services à l'empire colonial français. Donc, je cite quelques-uns, Ouattara, Alpha Condé, etc. Ces gens-là, alors, pensez à l'image, car on ne pense jamais assez qu'il y a autour d'Emmanuel Macron, allez-y, des spécialistes de la communication et donc de l'image. Et alors l'image d'un Emmanuel Macron entouré de vieux chefs d'État, contestés, ayant 30 ou 35 ans de plus que lui, c'est pas très positif, c'est pas très porteur, il est dans le camp des vieux. Or, je l'ai déjà dit et je le maintiens, si Macron est un véhicule d'idées vieilles, il veut tromper sur son image à lui, c'est-à-dire lui veut donner l'image du jeune. Sa politique n'est pas une politique nouvelle, donc ça ne marche pas, mais il joue là-dessus. Donc cette image, c'est dire, on remplace, on met à l'écart, on ne veut surtout pas montrer ces vieux dictateurs corrompus, achetés, etc., et on met des plus jeunes, qui sont quand même connus dans leur pays, et puis on implique un intellectuel de qualité, Achille Mbembe, qui s'est livré, enfin qui a s'est complu dans cette opération pour être un peu le grand maître de cette cérémonie-là. Bon, c'est regrettable pour lui. Ça n'a rien donné de plus. Et d'ailleurs, à différentes interventions que Macron a fait au cours de ce sommet d'un nouveau style, il a bien montré que c'était encore lui qui était le maître de ballet. Donc, aucune illusion là-dessus, simplement changement de forme, changement de style et changement d'image. Car ce qui importe pour l'Élysée, en ce moment, en pleine campagne présidentielle, vous avez compris, c'est l'image. C'est ça qui compte. Bon. Voilà. Rien de plus là-dessus. On en reparlera peut-être, encore que ce n'est pas... Voilà, il n'y a rien à dire de plus que ça. Hein, c'est un changement, je dis, sur la tête de gondole, on a enlevé le produit France-Afrique, on a mis le produit Afrique-France, c'est tout. Hein, mais c'est la même politique néocoloniale, avec des habits neufs, les habits neufs du président Macron, comme disait l'autre à propos d'un autre chef d'État, et c'est rien de plus. Voilà. Il a changé son costume, alors il a les moyens, n'en parlons plus. On reparlera, mais un peu plus tard, et je pense la semaine prochaine ou peut-être la suivante, du congrès qui s'est tenu, alors qui lui a de l'importance politique en Côte d'Ivoire pour la création du nouveau parti dont Laurent Gbagbo a été le nouveau président élu. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'avoir une interview d'un participant et donc d'un témoin direct de ce congrès constitutif du nouveau parti qui est fait pour peser dans la vie politique ivoirienne, dans le sens de la démocratie, dans le sens d'une république indépendante de la France, où ce ne seraient plus les militaires français qui regarderaient arriver tous les avions sur l'aéroport international d'Abidjan. Car c'est ça la situation géographique. La géographie et la topographie, ça a du sens. Quand vous avez le principal aéroport d'un pays qui est une des grosses économies de cette zone-là du Golfe de Guinée, et que autour de ce terrain d'aviation, public ouvert à toutes les compagnies, c'est l'armée française qui veille, vous avez quand même un sentiment d'être contrôlé quelque part. Ça veut dire qu'il leur suffirait de 2 minutes pour bloquer les pistes. C'est ça que ça veut dire. Et ce n'est pas le président de la Côte d'Ivoire qui leur demanderait de le faire. Pas nécessaire.
Moi, je suis toujours étonnée que cela ne choque pas les Français.
Mais on ne leur montre peut-être pas suffisamment. On leur dit qu'il y a des Français en Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas regarder où ils sont. En fait, regardez.
Ils ont oublié de le dire sur BFM TV.
Voilà. Voilà. Alors, on salue l'arrivée de Habib. Et je crois que tu avais des choses à nous raconter. Donc, oui. On te donne la parole quand tu veux. Mais quand tu as ôté ton blouson, ou tu es prêt, tu me dis quand tu es prêt.
Je suis prêt. Allez.
Voilà. Alors, je dis deux choses parce que ce sera assez bref. J'ai sous les yeux la carte d'un vote donc à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui est le vote exprimé le jour où la République populaire de Chine remplace, comme on l'attendait, Taïwan comme représentant de la totalité des Chinois au sein de l'ONU. Ça se passe donc en octobre 1971, donc il y a exactement 50 ans, et c'est pour ça que j'en parle. Et c'est très très intéressant parce qu'il n'y a pas eu du tout unanimité des membres de l'époque de l'ONU pour accepter la Chine à la place de Taïwan, puisque en gros, ils ont, la majorité des 2/3 qui étaient exigés a été retenue, mais on a quand même des pays qui se sont opposés à l'entrée de la Chine, donc la Chine, la vraie Chine, j'allais dire, à l'ONU. Ce sont l'Arabie Saoudite, pas de surprise, l'Afrique du Sud de l'apartheid, pas de surprise non plus, les États-Unis, bien entendu, qui se sont fait arracher cet accord, mais qui n'avaient pas envie que la Chine populaire remplace Taïwan, le Brésil, le Costa Rica, l'Australie, le Japon, les Philippines, et j'en reviens à mon sujet précédent, la totalité des anciennes colonies françaises, plus le Congo belge, avaient voté contre l'entrée de la République populaire de Chine à l'ONU. Donc les Oufouet-Boigny, je pense à lui en particulier, on est en 71, faisaient partie de ceux qui défendaient la position « c'est Taïwan, c'est les 20 millions de Taïwanais qui sont les représentants du milliard de Chinois ». Alors il y avait lui, il y avait tout le monde, le Tchad, la République centrafricaine, juste sous les yeux, la République du Congo, le Gabon. Alors il y avait quelques exceptions, mais très très peu. Et le reste de l'Afrique, effectivement, plus au nord, l'ensemble des pays du Maghreb, le Soudan, l'Égypte, tout cela, avait voté pour l'entrée de la Chine. C'était un élément à rappeler, et surtout pour reparler de cette Côte d'Ivoire et donc de ces colonies françaises, qui, alors que la France a voté pour, parce que la France était tenue par la position prise par De Gaulle quelques années avant, elle ne pouvait pas se déjuger. Mais en fait, les colonies françaises, il faut savoir que dans les votes à l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est encore le cas aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins contraignant, mais les colonies, les anciennes colonies françaises, en 1971, en 1980, suivaient les consignes du représentant de la France à l'ONU pour voter pour ou contre tel ou tel objet qui était sur la table du débat. C'est ça qu'il faut retenir. Ce néocolonialisme-là vit toujours. Voilà. Habib, c'est à toi.
Alors, merci d'abord de me donner la parole. Merci à Radio Galère, Sidi et mes amis Bernard Genet et Roseline. Voilà, je voulais en parler un petit peu de toutes ces matières grises qui sont déplacées, enfin qui sont déplacées par la guerre, par une guerre qui a été imposée à la Syrie bien avant 2011. Donc en 2010, la valeur de l'euro, il valait 40 livres syriens, et qu'actuellement, avec cette guerre imposée à la Syrie depuis 2011 jusqu'à nos jours, il se trouve que l'euro se trouve entre 3 500 et 4 000 livres syriens, excusez-moi. Sur le plan économique, évidemment, la Syrie subit... d'une part la loi César. La loi César, c'est une loi imposée par l'Amérique, USA, et surtout aussi l'embargo de l'Europe. Et certains pays arabes, il ne faut pas oublier, qu'ils ont causé une catastrophe économique sur le peuple, surtout syrien. Et uniquement le peuple qui subit tout ça. Celui-ci, ce peuple qui a, on connaît l'histoire de la Syrie, qui a subi beaucoup de guerres, et qui a subi aussi l'Empire ottoman et tout ça, le peuple syrien n'est pas tombé dans ce piège imposé par l'Amérique, le peuple et certains pays arabes, et surtout l'Europe. Je continue toujours à le répéter, parce que bon, c'est normal. Alors, le peuple continue à soutenir le pouvoir qui est en place, malgré quand même cette crise économique qui est très très difficile à supporter. Et cette guerre imposée a provoqué beaucoup de morts. Je ne connais pas tout à fait le nombre des morts exact, parce qu'il y a plusieurs pays qui disent qu'il y a tant ceci, tant cela. Bon, le pouvoir syrien il dit environ dans les 300 000. Bon, c'est ce que j'en ai parlé. Alors, personne ne peut donc dire les chiffres exacts des centaines, des milles. Ceci a provoqué des millions de réfugiés. À l'extérieur du pays, on a un premier qui a reçu énormément de réfugiés. En premier, c'est le Canada. Le deuxième, l'Australie. Le troisième, l'Allemagne. Le quatrième, je ne me rappelle plus lequel, mais bon. En dernier, je vous dis, la France a reçu, en dernier, elle se trouve au 15e ou 20e position, 7%. Voilà. Alors, bien sûr, ces millions de réfugiés à l'extérieur du pays se trouvent énormément, beaucoup en Turquie, en Jordanie. D'ailleurs, la Turquie a joué une carte très malhonnête en se servant de ses réfugiés. La Jordanie aussi bien que la Turquie, elle a essayé aussi. L'Irak, le Liban, l'Égypte et certains pays arabes. Donc, l'Europe a accepté des réfugiés possédant surtout des bacheliers,
des
toubibs, des ingénieurs, voilà. Des avocats, et tout particulièrement l'Allemagne. Je sais que moi j'ai beaucoup d'amis qui sont toubibs, qui sont réfugiés en France et tout ça. Bon, j'en connais pas mal. Donc, toute cette matière grasse qui s'échappe, parce que la Syrie, il n'y a pas d'inalphabète, ça n'existe pas. La Syrie, la plupart des gens, on peut dire, savent très bien lire et écrire, possédant beaucoup, beaucoup des bacheliers, le baccalauréat, quoi. Bon, voilà. Alors, d'après ce que j'ai entendu, c'est que Mme Merkel avait accepté environ plus de 8 000 entre toubib, avocat, bachelier, tout ce qui s'ensuit. Voilà. La France, beaucoup de docteurs et dans la recherche scientifique. En Amérique, vous avez énormément aussi des matières grises syriennes qui sont parties. Particulièrement, il y a une femme actuellement qui se trouve à la NASA, qui est d'origine syrienne, parlant couramment l'arabe. Et elle travaille sur la recherche spatiale, surtout solaire, je crois, hein, dans ces domaines-là. Je n'ai pas oublié aussi la Suède, une grande, beaucoup, beaucoup de commerçants suédois, enfin syriens qui se trouvent en Suède, et en Autriche aussi, beaucoup de Syriens qui sont des toubibs, des docteurs, des ingénieurs, et puis même beaucoup de commerçants. Je sais qu'en Égypte, pratiquement une grande partie de l'industrie d'Alep se trouve au Caire. Se sont installés, voilà, en Égypte, ils ont des usines, et comme vous savez, le Syrien, c'est des gens qui sont très dynamiques, clairvoyants, et qui sont des grands commerçants, depuis les Vénitiens, je crois, hein, Bernard.
Oui, même avant. Même du temps des Romains, ils étaient déjà importants dans le commerce entre l'Empire romain et l'Inde.
Oui.
Puisque une partie de la marchandise qui s'échangeait passait par Palmyre, où elle arrivait donc à dos de chameau ou de cheval, et repartait par le Chott el-Arabe, donc par l'issue.
Chott el-Arabe.
Ouais. Chott el-Arabe, donc ouais.
Le golfe persique, quoi.
Le golfe persique vers l'Inde.
Mais c'est vrai qu'il y a deux noms, le Chott el-Arabe et le golfe persique. Oui.
Donc c'est une vieille, vieille histoire, l'histoire de Palmyre.
Alors, et ne pas oublier l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud a énormément aussi reçu de ces matières grises syriennes. Hein. Ouais. Il y a surtout l'Argentine, le Venezuela, le Venezuela. Il y a une communauté, mais vachement importante au Venezuela, qui est très actif aussi. D'abord, il y a une grande journaliste qui travaille sur le Mayadin, elle donnait beaucoup les informations sur l'Amérique du Sud. Le Venezuela particulièrement, parce qu'elle est d'origine syrienne et donc elle a la nationalité vénézuélienne. Vénézuélienne. Alors je parlais de la Bolivie, le Brésil et surtout l'Argentine, une grande communauté qui date depuis... Non seulement depuis la Première Guerre mondiale, mais aussi actuellement. Beaucoup se sont réfugiés aussi en Argentine. Et bien sûr, bon, pour tous ces pays, alors, cette facture a coûté très très cher au pouvoir politique qui se trouve en Syrie. Parce que, bon, la plupart... il ne faut pas oublier que la plupart des Syriens ont subi, comment on appelle, les écoles. Et je voulais dire par là que les écoles étaient gratuites.
Oui, on profitait du système de la gratuité.
Et même les cahiers, les livres, ils sont distribués dans les écoles primaires, secondaires et dans les universités.
Et une grande abondance de bourses aussi pour aller à l'étranger.
Hein. Voilà. Et beaucoup, beaucoup, oui, actuellement, parce que je sais pas mal, surtout sur Marseille et la Timone, il y a énormément de toubibs, des dentistes, des trucs comme ça qui ont été formés. Et à Aix-en-Provence, à Montpellier aussi. Voilà. Donc ça a dû coûter très cher, cette histoire, à la Syrie.
Voilà. Et on est devant un système de pillage généralisé, c'est-à-dire qu'assez souvent, on laisse les pays moins développés former leurs cadres. Et après, on les appâte avec des salaires plus élevés. Donc, ils ont payé la formation. Et donc, on a des gens formés gratuitement, sur le dos des peuples.
Il y a beaucoup, même si vous...
Tout à fait.
La Côte d'Ivoire, rappelez-vous, la Côte d'Ivoire,
bien sûr,
c'est pareil.
C'est du pillage. C'est une ressource, c'est la ressource humaine.
Dans tous les pays en voie de développement ou sous-développé.
Voilà. Le pillage ne s'arrête pas au minerai, ça s'arrête aussi ce que tu dis à la matière grise. C'est même encore plus intéressant, mais ça coûte très cher de former quelqu'un jusqu'à 25 ans au meilleur niveau dans sa discipline. Et après, on se l'approprie.
Exactement. Alors, je vous dis, je termine en disant que la Syrie, c'est la mère du monde. où tous les dieux sont nés et les prophètes aussi.
Explique plus en détail ça en fait.
Je lance ce truc à mes amis syriens qu'il ne faut pas oublier la Syrie. La Syrie, c'est votre pays. Quels qu'ils soient, les réfugiés qui se trouvent quelque part, pensez que vous avez une patrie mère. Voilà. Je termine là-dessus, je laisse Bernard continuer.
Non, mais je vais compléter en ce sens. Ça veut dire quoi, effectivement, sur le territoire qui était un peu plus vaste que la Syrie actuelle, enfin, à cet endroit-là du monde, disons, donc, entre la Méditerranée et le monde moyen-oriental, du Chotel arabe, du Golfe Persique et tout, et de la Perse de l'autre côté, il est né le judaïsme. Oui. Il est né ensuite le christianisme, que les chrétiens qui nous écoutent, ça doit arriver, pensent à l'apôtre Paul. Paul est un Syrien. Hein. Le chemin de Damas qu'il a rendu célèbre, c'est parce qu'il va à, c'est que là, il a la révélation en allant à Damas.
Et sa tête se trouve dans la mosquée
Des Omeyyades, voilà, à Damas. Donc, et puis ensuite, l'islam, alors ne démarre pas, on le sait, il démarre dans la péninsule arabique, mais il va s'installer là avec le premier califat, celui des Omeyyades, qui est installé à Damas. Bon, donc effectivement, on a la terre où ces trois religions, les trois religions du livre, comme on dit, les trois monothéismes, se sont développés. Alors après, chacun a trouvé sa place. Aujourd'hui, c'est de fait l'islam qui est dominant dans la population syrienne, mais il y a des traces et des restes de la présence chrétienne, non nulle.
Ah oui.
Moins de la présence juive, mais quand même, il y en a aussi. Il faut savoir qu'il y a aussi des juifs en Iran qui vivent une vie tranquille, ce qui n'est pas le cas partout.
Ils ont deux députés.
Voilà. Donc on sait que c'est un endroit du monde où ces trois monothéismes sont nés, se sont développés. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas, à aucun moment, ce qui serait voulu par des extrémistes, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, parce que les extrémistes francs, je veux dire les croisés, ils voulaient un peu piller, mais aussi imposer leur religion, réimposer la religion chrétienne. En fait, la Syrie a maintenu, non pas un équilibre entre les trois courants du livre, mais au moins chacun peut vivre. Et on sait, on a eu
jusqu'à présent.
Voilà, jusqu'à présent. Et c'est ce qui est en jeu à l'heure actuelle. Il faut savoir que, j'insiste là-dessus, c'est dans la constitution actuelle de la République arabe syrienne. Elle dit bien son nom parce qu'il s'agit d'une population arabe. Et ça ne veut pas dire musulmane. La seule référence qui est faite dans la constitution actuelle de la Syrie, c'est que le président de la République doit être un musulman. C'est tout. Ça veut dire, à contrario, que la totalité des ministres, la totalité des généraux, la totalité de l'état-major peut avoir n'importe quelle religion. Alors effectivement, les musulmans étant majoritaires, ils sont probablement aussi dans ces pays, mais ça permet à ce qu'un chrétien soit ministre, un chrétien soit ambassadeur, un chrétien soit...
le président de l'Assemblée du Parlement
catholique.
Quoi.
Voilà,
j'insiste là-dessus. Il y a des généraux aussi dans l'armée qui sont
bien
catholiques.
Bien sûr. Ouais. Alors j'insiste là-dessus parce qu'il y a une confusion qui est dramatique, qui est faite... surtout dans une campagne électorale présidentielle telle qu'elle est en train de s'organiser chez nous, une confusion dramatique entre la notion d'arabe et la notion de musulman, qui sont totalement indépendantes l'une de l'autre. On ne parle pas du même registre de la vie humaine. Bon, c'est ça qu'il faut redire à propos de la Syrie. Et ce qui est en jeu dans la guerre de Syrie, c'est effectivement ce qui a été en jeu. Alors ça a raté, l'État islamique n'a pas réussi à s'installer, il reste encore des djihadistes, il en reste encore trop. C'est pour ça que la situation n'est pas stabilisée. C'est-à-dire des djihadistes, c'est des gens qui veulent imposer leur religion à tous les autres, au prix de la vie des autres. On a bien compris la mécanique. Bon. Ça continue. Les dernières nouvelles qu'on a, si tu as suivi Habib, c'est qu'en fait, il se prépare probablement le dernier grand combat dans le nord-est de la Syrie entre les troupes turques qui sont sur un sol qu'elles ont envahi, les troupes turques qui sont là et qui veulent essayer d'en finir avec ce qu'on appelle la force démocratique syrienne, qui sont en partie des Kurdes.
FDS, oui.
Voilà. Ce que veut faire Erdogan et la Turquie, c'est éliminer physiquement, un par un, tous les Kurdes qui se trouvent là. Bon. Aux Kurdes de choisir, et je pense que ça ne tardera pas, de savoir s'ils acceptent de rester sur le territoire syrien où ils trouveront leur place, et de travailler avec l'armée arabe syrienne pour défendre le territoire et la souveraineté de la Géorgie. C'est ça qui se joue en ce moment. En même temps
Idlib, ça commence déjà, il y a des bombardements.
Et l'autre foyer étant Idlib, donc à l'extrême ouest du territoire, aux confins de la Turquie, avec frontières ouvertes avec la Turquie, frontières ouvertes à l'armée turque, frontières ouvertes aux espions turcs, frontières ouvertes aux médecins turcs, enfin tout ça, on a Idlib, et pour l'instant une colonie turque, avec un groupe djihadiste qui en dépend.
Et qui sont étrangers, c'est ça
qui est... Voilà, c'est ça, c'est des mercenaires.
Des mercenaires, des Tchétchènes, des les avocats. Bon,
donc, alors ça, on sent qu'on est au bout de ce processus qui dure depuis déjà assez longtemps, hélas, mais ça n'exclut pas encore ce qui se passe, le réveil de cellules dormantes djihadistes, il y a des gens qui disparaissent dans la circulation, on ne les voit plus, et puis qui tout d'un coup, à un endroit où tout est calme depuis des mois, des semaines et tout, où la vie normale a repris, mettent une bombe et tuent des gens.
Oui, il y a eu un attentat à Damas.
À Damas. Hein. C'est la fin. C'est ce qui reste, c'est le dernier soubresaut du terrorisme, ça, quand on en est là.
Absolument. Ouais.
Mais cette phase-là n'est pas encore atteinte partout, puisqu'il y a ces deux morceaux du territoire de la Syrie qui sont encore entre des mains étrangères, entre les mains de l'armée turque, pour être clair, avec la complicité de ce qui reste de soldats des États-Unis.
Dernièrement, il y avait des drones qui ont bombardé la base américaine.
Tout à fait. Voilà. Alors, je profite de ce que tu évoquais sur la diaspora syrienne. Alors, pour les, je crois que ce soit un Syrien, mais il a été beaucoup question ces jours-ci d'un Vénézuélien qui s'appelle M. Saab, qui est peut-être Syrien, peut-être Libanais, je n'ai pas trouvé ça, son pays d'origine, qui en fait, alors il lui est arrivé une aventure assez extraordinaire, ce monsieur est un homme d'affaires connu, qui a rendu des services au gouvernement du Venezuela, d'abord du temps de Chavez, qu'il avait recruté, et ensuite du temps de Maduro. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que ça veut dire rendre des services? Quand vous êtes dans un pays qui est frappé dans un embargo par les États-Unis et tout l'Occident à sa suite, vous essayez de sauver la vie économique de tous les jours de ce pays-là. Donc vous essayez de faire rentrer des produits qu'on vous empêche d'acheter et vous trouvez des gens qui sont dans le milieu des affaires qui vont vous aider, qui vont dire « moi, ça y est, je sais faire, je prends ça à mon compte, après vous rémunérez mes services, je suis un intermédiaire, si vous voulez, mais je suis d'accord avec vous ». Ce monsieur Saab donc, avait été recruté par Hugo Chavez. Il a continué ses activités du temps de Maduro pour essayer de faire rentrer sur le sol vénézuélien est arrivé des produits qui autrement ne rentraient pas. Il faut savoir qu'il y a 450 produits qui sont interdits de commerce international par l'embargo des États-Unis. Touchant la vie quotidienne. Il s'agit de médicaments, il s'agit de nourriture, il s'agit aussi de matériel permettant à l'industrie pétrolière du Venezuela de continuer à fonctionner, des pièces détachées, des choses comme ça. Bon, il avait réussi à mettre ses filières en place, il le faisait, il avait ses facilités, et puis il était rémunéré, il prenait sa commission sur ce qu'il faisait. Mais il amenait des produits qui, autrement, ne seraient jamais arrivés au Venezuela. Bon. Ce monsieur... Ce monsieur fait une escale, alors c'est assez extraordinaire, ce monsieur fait une escale au Cap-Vert, c'est cet archipel qui est au large de la Mauritanie. Bon. Il fait escale au Cap-Vert et tout d'un coup, il voit monter dans son avion, qui était là pour faire le plein, il voit monter des hommes armés qui lui disent de descendre.
Ouais.
Bon, alors il est descendu parce qu'il ne voulait pas mourir tout de suite. On l'a enfermé un certain nombre de jours. Et il a été enfermé par la demande, par le gouvernement donc, du Cap-Vert, à la demande des États-Unis d'Amérique, pour l'extrader. Et c'est ce qui vient d'arriver. C'est-à-dire que le gouvernement du Cap-Vert vient d'extrader un monsieur qui était tout à fait en règle du point de vue de toutes les règles internationales, ses papiers, etc., qui n'était là que pour une escale technique, pour que son avion fasse le plein. Ce monsieur est désormais entre les mains de la justice des États-Unis. Qui va l'accuser, d'avoir violé l'embargo, bien sûr, puisqu'il a acheté des produits qui étaient... et il a permis à des Vénézuéliens de survivre, y compris des Vénézuéliens, dans les quartiers pauvres. C'est ça qui se passe. Alors, dernière chose cocasse, mais on parlait des chefs d'État africains qui ne sont pas tous présentables, le chef d'État de la République du Cap-Vert.
Ah oui.
Bon. Qui a donné cet ordre, qui a obéi à Biden, soyons clairs, ne tournons pas autour de pot. Ce chef d'État, deux jours après que monsieur Saab ait été pris par ses services, a été remplacé parce qu'il y avait une élection. Le président qui l'a remplacé était hostile dans sa campagne à l'extradition de monsieur Saab, seulement l'autre l'a extradé deux jours avant. Et il y a aujourd'hui, tant mieux, à la tête de la République du Cap-Vert, un nouveau président qui, lui, est dans la filiale, est un héritier politique de Amilcar Cabral, grand dirigeant indépendantiste africain, un des plus grands dirigeants indépendantistes africains, assassiné par les colonialistes, il faut le rappeler. Et donc, à quelques jours près, le coup a été très très bien monté, c'est-à-dire que le président sortant, maintenant il n'est plus en affaires, a fait un coup sur ordre des États-Unis, et maintenant il n'est plus président, on ne peut plus rien lui faire. Donc voilà ce que c'est. Et donc là, il y avait un citoyen, je ne sais pas s'il était syrien ou libanais d'origine.
Je vais marquer son nom.
Monsieur Saab, je te donnerai l'article.
Je regarderai,
voilà.
Ouais.
Voilà. Alors, vous voyez à quoi se joue la fortune. Alors, ce monsieur risque, il est accusé de terrorisme, de complot, il risque la condamnation à perpétuité, rien que ça. Et c'est pas un trafiquant, c'est pas un gamin, c'est un monsieur qui a la cinquantaine, qui s'est mis au service du gouvernement vénézuélien, en disant, mais moi, je vais vous aider, parce que moi, je peux négocier. Moi, en tant que société privée, je peux acheter des produits, après, je les vends à qui je veux. Ça se fait couramment dans le commerce international. Mais il a dit, mais je le vends à vous, parce que je sais que vous, on vous veut du mal. C'était ça, M. Sam. Bon, c'est encore ça, M. Sam, mais pour faire l'exemple, il est en prison et il risque la perpétuité. Peu, ouais. Voilà comment se comporte l'Empire. C'est toujours bon de le rappeler. Et puisque je suis... je reste en Afrique. On peut parler de l'Afrique aussi, parce que vous avez tous entendu dire qu'il y a eu, c'était il y a 24 heures maintenant, un coup d'État au Soudan.
Ah ça, je ne sais pas.
Ah oui, mais ça...
C'est un nouveau, alors.
Ah ça oui, fait le c'est un Alors, qu'est-ce qui se passe au Soudan? Donc, coup d'État, en gros, coup d'État militaire.
Ah, Soudan égyptien.
Plus égyptien. Il y a des valeurs, quand même.
Soudan, on l'appelle le Soudan égyptien, oui.
Oui.
J'ai confondu avec le Mali.
C'est vrai que le Soudan a été égyptien, mais vous savez qu'il a, du temps où la suite de la colonisation britannique, qu'il a mené une vie infernale aux colonisateurs britanniques et que finalement il a gagné son indépendance comme ça.
Ouais.
Bon. Donc le Soudan est indépendant. Et puis après, il y a eu une opération montée par à la fois Israël et les États-Unis pour découper le morceau sud, à la suite aussi d'un autre assassinat, l'assassinat du général qui commandait la rébellion sud-soudanaise, qui avait été formé aux États-Unis par les académies militaires les plus pointues, et qui avait signé la réconciliation des mutins, disons, du Sud-Soudan avec le gouvernement du Nord, et qui a été assassiné sitôt qu'il a été au pouvoir, dans le Soudan réunifié. Donc le Soudan est à nouveau divisé. Mais là, ce dont je parle, c'est le Soudan, la grande partie du Soudan, la partie du Soudan Nord, autour de Khartoum. Alors, vous vous souvenez peut-être qu'il y a de ça 2 ans, donc on était en 2019, a fait irruption une mobilisation populaire très importante qui s'est terminée par la fuite du général, du dictateur qui était là à la tête du Soudan depuis 30 ans, je crois, Omar al-Bashir.
Voilà,
qui était poursuivi par la justice internationale, à qui on voulait beaucoup de mal. Alors, il n'avait sûrement pas les mains tout à fait propres, mais il avait ce gros défaut aux yeux des États-Unis et d'Israël d'être pro-palestinien, fidèle d'un bout à l'autre de son mandat.
Il est à la CPI actuellement, lui, non ?
Non, il n'y est pas allé. Il était poursuivi par la CPI.
Il est en surveillance.
Voilà. Il n'a pas été livré, disons.
Non.
Bon. Et donc, à la suite des grosses manifestations de rue dont on nous a beaucoup parlé, je vais y revenir, M. Omar al-Bashir s'enfuit, se cache là où il est, je ne sais plus où il est, mais enfin, il n'est pas entre les mains de la CPI, et je pense qu'il n'y sera jamais.
Il n'est pas en Libye. Hein.
Oui, ou quelque chose comme ça. Et il se met en place, alors, un espèce de gouvernement de transition, c'est-à-dire que l'armée qui entourait Omar al-Bashir est toujours là, il n'y a que lui qui est parti, et en fait, il se met en place un système qui était évidemment bancal, et j'en ai déjà parlé dans cette émission, un système avec un mélange de cette expression de la société, enfin des gens qui ont manifesté contre le dictateur Omar al-Bashir, et l'armée. Et donc on est dans la période, on était jusqu'à ce lundi, dans la période d'un gouvernement de transition qui était chargé, qui s'était engagé vis-à-vis de la population, à mettre au point une nouvelle constitution.
Dans ce gouvernement, il y a une partie qui est civile.
Voilà, c'est ça. Il y a des civils. Alors les civils qui ont constitué une espèce d'organe, une association qui les représente. Alors est-ce qu'elle les représente tous? Je vais y venir. Il y avait une espèce d'équilibre qui avait calmé le jeu.
C'est ça, pendant quelques mois.
Parce qu'il
mois.
Y a eu quand même quelques dizaines plus de morts dans les grosses manifestations qui ont eu lieu au printemps 2019. Et donc, ça devait déboucher sur une nouvelle constitution qui aurait stabilisé le cadre du jeu futur de la politique soudanaise. Bon, c'est pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ce lundi, les militaires ont repris le pouvoir.
C'est ça.
Et se sont débarrassés de
des civils.
Des civils. Alors... Il faut s'arrêter. Alors ça a donné lieu évidemment à des protestations de l'Occident.
Là, il y a eu des manifestations et il y a eu beaucoup de morts aussi.
Voilà,
hein.
Voilà. Ça a donné lieu à des protestations de l'Occident, y compris à un tweet vengeur et définitif d'un certain Emmanuel Macron, mais ça ne coûte rien de faire un tweet. Non, ouais, c'est pas bien. Hein. C'est pas bien. Il ne faut pas que les militaires, tout le monde dit, il faut que les civils reviennent au gouvernement, il faut signer ça. Bon, pourquoi les militaires ont décidé que ça suffisait ?
Et voilà.
Voilà. Alors pourquoi ils ont décidé ça ? Parce qu'ils ont vu que ces civils, en fait, ce n'étaient pas tous les civils. Hein, il y a une trentaine de millions d'habitants au Soudan, beaucoup à Khartoum, qui est une très très grosse ville, mais qu'il y avait quand même des courants organisés dans cette société civile, et c'était eux qui avaient mis en mouvement la mécanique de la protestation populaire. Mais aille bien regarder, ça a été dit par des journalistes qui étaient sur place, il s'agissait surtout de gens diplômés, de gens vivant en ville, de gens ayant vécu ici et là à l'étranger, ouais. De gens manipulant Internet et l'ayant chez eux, ce qui n'est pas le cas de la majorité des Soudanais. Donc on avait donc une tranche de la population civile soudanaise qui avait accaparé le pouvoir d'expression de la totalité de la société soudanaise à l'exclusion de l'armée. C'est plus tout à fait ce qu'on nous présente. C'est le peuple qui a été berné. Non, c'est ceux qui avaient tenu le haut du mouvement, qui s'étaient imposés dans le gouvernement de transition, qui ont été mis à la porte. Alors ils ont été mis à la porte pourquoi ? Ben, tout simplement parce que à la longue, les militaires se sont aperçus qu'ils représentaient non pas les intérêts profonds du peuple soudanais, mais les intérêts des Occidentaux pour transformer le Soudan. Mmh. Ouais. C'est tellement évident que qu'est-ce qui s'est passé déjà pendant l'installation, voilà, la vie brève de ces deux ans du gouvernement de transition, c'est que le Soudan a commencé à changer de politique extérieure.
Ouais.
Et en particulier, a signé avec Israël un accord de coopération et d'amitié, comme ont fait les Saoudiens d'en face et les Émiratis de l'autre côté. Donc c'était bien exactement la politique que les États-Unis et Israël entendaient que ce gouvernement-là suive, et pas une autre. C'est ça que les militaires ont compris. Mais je veux dire, c'est gros comme le nez au milieu de la figure. Hein. Vous dites qu'on a tout changé. En fait, on a tout changé. Oui, simplement, on est passé dans les mains d'Israël. C'est tout. Alors qu'avant, il était clair, quoi qu'on pense de M. Omar el-Bashir, qu'on n'était pas dans les mains d'Israël et des États-Unis. Ah. Voilà. Bon, c'est ça qui se joue maintenant. Alors on va avoir effectivement toute une série de protestations. C'est pas bien, coup d'État, etc. Mais il faut voir d'où vient le coup d'État.
Ouais.
Ce qui a fait réfléchir aussi, c'est que ça a fait réfléchir aussi à Moscou. Parce que je crois qu'on en avait parlé à l'antenne, mais vous savez que Moscou avait signé, peu avant les troubles de l'année 2019, du printemps 2019, un accord de coopération avec le Soudan, au terme duquel le Soudan lui accordait une base maritime, militaire, sur les bords de la mer Rouge,
ouais.
À côté du grand port soudanais qui s'appelle Port Soudan. Or là, on avait un véritable basculement du Soudan dans le camp ennemi, hein, je parle comme si j'étais à Washington, la Russie trouvait là une base militaire dans une zone où elle n'était plus depuis 1991. Hein, et donc ça, c'était particulièrement insupportable pour les États-Unis. Or, il y avait eu, et je crois qu'on en reparlait quelques fois, je l'ai évoqué dans d'autres émissions depuis 2019, on ne savait pas trop ce qui allait se passer, parce que l'accord était signé, les Russes, bon, c'était prudent, n'étaient pas venus, ils n'avaient pas imposé leur présence, mais ils posaient quand même la question, ils disaient, mais alors ce papier qu'on a signé, il ne vaut rien, c'est un chiffon de papier, c'est pas un chiffon de papier, ils attendaient de voir. Alors là, effectivement, ils risquent d'avoir une réponse beaucoup plus claire. Mmh. Hein, et on pense que c'est peut-être l'avis des militaires de dire, c'est bien gentil, mais on va reprendre nos accords, les remettre en fonction, et on va laisser la Russie installer sa base. Ce qui bouleverse totalement l'équilibre militaire dans la zone de la mer Rouge. Ceci se passe au même moment où il y a la guerre en Éthiopie. Alors l'Éthiopie, hein, c'est la porte à côté, c'est juste le sud.
Et là, il y a un problème.
Au moment où donc le gouvernement central d'Éthiopie, l'Éthiopie, je le dis, 110 millions d'habitants, un gros potentiel de développement économique, une forte agriculture, etc., bon, est aux prises avec le Tigré. Le Tigré, donc une petite province du nord-ouest de l'Éthiopie, qui a entrepris de se libérer du gouvernement central d'Addis-Abeba dans le cadre d'un fédéralisme mal compris. Or, la guerre continue, c'est-à-dire que la guerre entre le gouvernement éthiopien et les Tigréens, ou ceux qui parlent, continue, et il est de plus en plus clair que l'appui de l'Occident va totalement aux Tigréens, c'est-à-dire à l'extrême minorité, hein, les habitants du Tigré eux-mêmes, hein, qui ne sont pas tous impliqués dans le combat, mais les habitants du Tigré, c'est 4 ou 5 millions de personnes sur 100 millions, ouais, ils ne pèsent pas lourd. Mais l'élite tigréenne, ou les dirigeants tigréens, ont gardé une très très mauvaise impression de l'arrivée au pouvoir de M. Abiy Ahmed, parce que jusqu'à son arrivée au pouvoir, c'était les Tigréens, l'élite tigréenne, 4 millions d'habitants, qui gouvernaient les 100 millions d'Éthiopiens. Et c'est ça que les 95 autres millions ne veulent plus. C'est tout à fait clair. Mais ce qui est évident aujourd'hui, c'est que les moyens militaires et la capacité d'information, et j'allais dire de propagande des Tigréens, c'est les moyens de l'Occident, hein, qui ne veut pas que M. Abiy Ahmed, qu'on avait cherché à amadouer par un prix Nobel de la paix préventif, j'allais dire, en fait, a reconnu que les intérêts de son pays, ce n'était pas de se livrer pied et poing ni à Israël, ni aux États-Unis, qui ne cherchent que la guerre et la domination, mais d'asseoir sa souveraineté en tant que grand pays d'Afrique, un des plus peuplés d'Afrique, on le sait, avec un énorme potentiel de développement. Bon, ce qui n'a pas été non plus pardonné à M. Abiy Ahmed, c'est d'avoir continué à accepter les investissements chinois sur le territoire de son pays et d'avoir mis en service le fameux train Djibouti-Addis Abeba qui assure la pénétration de tout le commerce international dans l'intérieur du territoire, du territoire éthiopien. Donc voilà le jeu. Ce qui se passe, c'est en fait le Soudan, enfin les militaires soudanais qui se disent « Alors, en Éthiopie, les États-Unis et Israël mettent le désordre » pour défendre leurs intérêts. Nous, ils ont essayé de faire la même chose en disant « il ne faut pas que vous travaillez avec les Russes, il ne faut pas travailler avec les Chinois, etc. » Et ils ont dit « bon, on reprend nos billes. Hein. Il n'est pas question qu'on tue la population civile, mais ceux qui ont manifesté pour la démocratie, j'utilise les termes en vigueur en Occident, ceux qui ont manifesté pour la démocratie, c'était aussi les classes aisées, les gens qui avaient Internet et des gens qui pouvaient être inspirés pour certains de bonne foi, je ne l'exclus pas, pour d'autres certainement moins, qui pouvaient être inspirés par des cercles de pouvoir strictement occidentaux et pro-israéliens. C'est ça qui est en train de se jouer. C'est très très important parce que ça met en cause la solidarité de tous les pays qui sont le long de la vallée du Nil et qui, vous le savez, tu l'évoquais Habib, ont un problème pour effectivement la gestion commune des eaux du Nil, puisque le nouveau barrage construit sur le territoire éthiopien retient des quantités d'eau et que pour l'instant il n'y a pas d'accord entre les trois pays intéressés. Exact. Donc dans l'ordre, l'Éthiopie qui est à la source, le Soudan plus au nord et l'Égypte qui dépend extraordinairement de l'eau du Nil, il n'y a pas aujourd'hui d'accord. Mais si effectivement on a un accord entre l'Éthiopie et le nouveau gouvernement de Khartoum, à ce moment-là, je pense que la discussion va redevenir possible. Ça devenait délicat dans la mesure, effectivement, à Khartoum, le pouvoir était faible, puisque ce gouvernement de transition n'avait pas beaucoup de pouvoir, il était déséquilibré, il n'avait pas trop d'avenir, il n'y avait pas d'accord à l'intérieur. Dès l'instant où il y a un pouvoir plus stable qui s'installe à Khartoum, les négociations peuvent reprendre, je pense, avec une plus grande confiance des Éthiopiens et probablement même une plus grande confiance des Égyptiens qui diront, ben là, on sait à peu près à qui... Je rappelle que quand même, El-Sisi est aussi un militaire, on sait à peu près où on met nos pieds. Voilà donc une évolution très très importante.
Très, très, délicat. Wow.
Voilà, délicat, mais voilà, qui est en cours.
Et qui va dans le bon sens.
Oui, qui va dans le sens de reprise de la maîtrise de leur avenir par ces trois pays. Alors, l'Égypte fait déjà ce qu'elle veut pour être indépendante, hein, mais les deux autres, alors, il faut ce petit Soudan, il est plus si petit que ça, encore que ça n'est plus le plus grand pays d'Afrique puisqu'il a perdu le Sud, mais encadré par deux pays qui font 100 millions d'habitants chacun, effectivement, il faut qu'il trouve sa place, et c'est ça qui est en jeu. Et donc, les petits jeux d'Israël, là, au milieu, peuvent être considérés comme du temps perdu et déplacer le...
Ben elle a misé beaucoup sur le barrage, Israël.
Oui, bien
elle
sûr.
Elle a poussé les Éthiopiens.
Pour mettre du désordre. Et ben voilà, la réponse, elle est là. Le désordre n'est pas celui qui était attendu. C'est les militaires soudanais qui n'ont pas fait un bain de sang, je le signale quand même. Hein. C'est les militaires soudanais qui ont dit maintenant, on reprend l'autonomie du pays et puis on remettra le pouvoir à la population en dehors des cercles d'influence sionistes et
États-Unis. Au mois de 2022, au mois de juillet.
Voilà. Voilà. Bon, faisons leur confiance, parce que ce qu'il y a, les enjeux qui sont derrière, c'est effectivement la souveraineté du Soudan.
Pourtant, il y a une équipe américaine qui, hier, ils étaient...
Non, 24 heures avant le coup d'État des militaires, le représentant des États-Unis dans la zone, M. Feltman, était venu aux nouvelles. Alors, il devait sentir qu'il y avait de l'eau dans le gaz, si j'ose dire, mais c'est trop tard. Ça devait déjà être décidé. Lui devait avoir des indications que ça se préparait. C'est fait. C'est fait. Je pense qu'il n'est pas très content.
Je crois qu'il y a un couvre-feu. Hein.
Voilà. Il pense qu'effectivement, il y a des risques. Alors, en plus, il y a des risques qui peuvent être amplifiés parce qu'il y a aussi sur la proximité du Soudan, ou sur le Soudan en particulier dans la partie occidentale, des gens qui ont déjà fait des guerres civiles, qui ont monté des groupes terroristes et tout. Je pense au fameux Jinjaouid qui avait servi aussi dans l'est de la République démocratique du Congo. Souvenez-vous de ça. Donc il y a des groupes de gens qui sont formés, qui sont prêts à mettre le désordre dans un État soudanais et qui tenteraient de se stabiliser. Et on aurait donc un groupe terroriste classique qui viendrait compliquer la tâche de l'équipe actuelle avant la transition démocratique. Bon. Je reste en Afrique et tout à côté, puisqu'il a été rendu un hommage au martyr Muammar Kadhafi, guide de la Jamaria libyenne. Est-ce possible ? Oui, en France même, rendez-vous compte. Et c'est je vais vous lire les éléments d'une motion, d'un texte qui a été signé à l'occasion du 10e anniversaire du martyr du guide jamarien. Alors, signé d'un certain nombre de groupes que je cite, parce que c'est pas si souvent, vous les entendrez pas citer sur les radios officielles. La communauté libyenne en France, avec le soutien de International de la Défense des Droits du Peuple Libyen, le comité. L'association Pierre, réseau de solidarité du peuple de Palestine. Les pacifistes de Tunisie. Le comité Islam Kadhafi. L'Institut tunisien des relations internationales. Bon, il y a une série de groupes qui ont donc signé ce papier, et qui rappellent, et c'est toujours bon de le rappeler, surtout dans un pays qui a été gouverné par Nicolas Sarkozy, Kadhafi avait un projet de civilisation que les ennemis de l'humanité ont fait échouer. Kadhafi avait un projet humanitaire qui a été confisqué, afin de faire tomber la Libye et les régions voisines dans un conflit permanent. Kadhafi avait un projet de liberté qui a été liquidé au profit des forces de l'injustice, de l'oppression et de l'asservissement religieux, social et économique des peuples. Kadhafi avait un projet de justice sociale et économique ciblant le capitalisme mondial qui accapare les biens matériels de tous les peuples. Kadhafi avait, pour la nation arabe, un projet d'unité et de souveraineté qui eût permis de protéger ses valeurs, ses lieux sacrés, son patrimoine et ses ressources matérielles et culturelles. Kadhafi avait un projet d'islam modéré, un islam de tolérance, de fraternité et de modernité. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent pour conclure ? À cette occasion, nous appelons les peuples du monde entier en lutte pour la liberté de s'inspirer du guide frère et de ses partisans qui ont mené pendant 40 ans un juste combat pour défendre tous les opprimés, les personnes défavorisées et marginalisées dans le monde et mettre en place un véritable système de démocratie populaire et un nouvel ordre social. Et ils disent, à l'occasion de cet anniversaire, nous nous demandons pourquoi le monde de l'information reste silencieux sur une question cruciale. Où est le corps du leader Kadhafi ? Pourquoi a-t-il été caché ? Pourquoi sa famille n'a pas pu le voir, comme le veut la tradition ? Et on pourrait ajouter ce que j'ajoute, où est le trésor du gouvernement libyen qui a disparu dans les opérations militaires ?
À ce qui paraît, il y avait des camions et des camions. D'or. Des dollars.
Oui, de dollars. Ouais. Et puis les comptes en banque qui étaient en Occident étaient vidés. Il y a eu donc une opération pirate qui a été menée sur le sol libyen, et puis l'assassinat dans des conditions crapuleuses du président libyen. Voilà, je l'ai dit, il fallait le rappeler, parce que tout ça se passe au même endroit. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette dimension qui est importante là, dans le communiqué de l'islam, c'est-à-dire des populations à dominante musulmane peuvent opter pour un islam de tolérance, comme il est dit dans le papier, ouvert à tous.
C'est la raison qui l'emporte, c'est tout.
Voilà.
La raison de chacun.
Ou bien être en les mains de djihadistes qui veulent que tout le monde soit musulman et que celui qui ne l'accepte pas meurt. C'est tout. Le débat est là. Alors j'en ai déjà reparlé quand je vous ai parlé de la situation des confréries musulmanes en Indonésie, qui sont sur cette ligne-là aussi, en disant nous sommes le plus grand pays musulman du monde et nous ne sommes pas pour un islam exclusif.
Si on écoute bien l'université égyptienne de l'Azhar,
oui.
Ben, l'islam modéré, il l'explique très bien, mais personne n'est informé, malheureusement, c'est ça.
Voilà. Non, et puis en fait, quand on est dans un pays où on ne nous parle que de l'islam comme des tueurs intolérants, etc., effectivement, tout le travail est fait dans le mauvais sens.
C'est vraiment... C'est...
Alors, je voulais juste,
vas-y.
Puisqu'on est dans le registre des présidents assassinés par
l'Occident, par la France,
rappeler que le procès de Thomas Sankara a repris hier, le 25 octobre 2021.
Et qui commence. Alors, ça
soit une trentaine d'années plus tard.
Voilà. On ne sait pas où est son corps, que sa veuve réclame depuis les origines. Oui, tout à fait.
Dans cette histoire, j'aimerais bien, Bernard, que tu en parles, Sarkozy.
Ah ben, Sarkozy, alors...
Il a eu un an de prison, bon...
Ah oui, non, mais pas pour ces motifs-là. C'est pas pour le vol de l'or syrien, de l'or libyen.
Pourtant, il a reçu une mallette.
Mais oui, non, mais voilà. Non, ce procès-là n'aura peut-être pas lieu. C'est-à-dire, en fait, moi j'en suis à dire, on peut se satisfaire, parce qu'on considère que le personnage était quand même pas très très reluisant, qu'il soit condamné pour telle et telle opération, mais condamné pour des traficotages d'argent à l'Élysée, sondages d'opinion, c'est l'attraper par le petit bout. Il s'agissait d'un dirigeant dangereux qui était prêt à faire des mamours, j'utilise ce mot-là, à un monsieur comme Kadhafi, rappelons-nous, la réception...
Et même pour Bachar, il voulait le faire pareil.
Et l'assassiner dans les pires conditions, donc crapuleuses. Bon, donc le personnage est encore beaucoup moins reluisant que ce qu'on veut présenter dans la justice française, parce qu'on ne cherche que des délits secondaires. Alors, pour le reste, c'est des délits coloniaux, c'est des délits impérialistes. C'est en ça que François Sarkozy dit qu'il ait trafiqué quelques centaines de milliers d'euros pour faire des sondages. Quelle importance ! Enfin, c'est secondaire. Ce qui est principal, c'est la capacité que la France, dirigée par des personnages de ce type-là, soit capable d'assassiner des chefs d'État dans des conditions les pires. Et de détruire un pays à l'occasion, car on n'a pas détruit que Kadhafi, on a détruit le pays libyen. Et après, des bons esprits s'étonnent. Ah, mais il part de Libye, d'état de réfugiés. Tiens, bien sûr, parce qu'il n'y a plus de gouvernement libyen. Alors, il y a un espoir quand même, puisque vous savez, ça se confirme, il devrait y avoir des élections présidentielles au mois de décembre en Libye, qui devraient permettre, enfin, il faut l'espérer, elles sont là pour ça, de tourner la page. À propos de procès, deux mots simplement pour dire que c'est demain et après-demain que va se régler le sort de Julian Assange, puisque le tribunal, la cour d'appel qui traite de son cas et donc qui traite de la demande d'extradition de ce journaliste par le gouvernement des États-Unis, doit statuer dans les 48 heures qui viennent. Alors je rappelle, je redis ce que j'ai dit la semaine dernière, que Assange n'est coupable de rien. Tout ce qu'on a pu lui mettre sur le dos est tombé. Et donc il n'a fait que son travail de journaliste, c'est-à-dire de faire circuler des informations qu'il n'a pas pris lui-même, qu'on lui a transmises. Et qu'il n'a même pas acheté. C'est-à-dire qu'il y a des gens, comme je parlais de Chelsea Manning, cette donc fonctionnaire des services de renseignement des États-Unis, elle s'appelle Chelsea parce qu'elle a changé de sexe entre-temps, qui a donc d'elle-même, par conviction politique, rendu public, enfin diffusé à des gens comme Assange, dont elle savait qu'il était capable de le faire, diffuser des documents secrets, des quantités énormes de documents secrets, montrant le fonctionnement et les décisions prises par les militaires des États-Unis, en Irak en particulier, et les crimes dont ils étaient capables. Voilà, ça elle l'a fait, elle a payé, elle a fait un certain nombre d'années de prison, mais c'est pas Assange, il est pour rien, il a reçu ces documents et il les a rendus publics dans le monde entier. Il a fait son boulot de journaliste. Aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il y a très très peu de journalistes y compris dans notre pays et dans l'Occident en général, qui prennent la défense d'un journaliste qui fait un boulot exemplaire. Sinon, si les journalistes sont uniquement là pour passer la brosse à reluire au président ou au premier ministre, c'est pas intéressant, c'est pas du journalisme, c'est de la com, c'est des relations publiques, c'est pas du journalisme. Donc un journaliste qui fait ça et qui est pas défendu par sa corporation, ça veut dire que la corporation est en mauvaise santé. Alors, étant en mauvaise santé, parce qu'effectivement, les gens au pouvoir ont mis de plus en plus de journalistes dans leurs manches, les ont couverts de cadeaux s'ils étaient polis et dans le bon sens, et ont mis sur la touche ceux qui ne l'étaient pas. C'est tout à fait clair. Vous savez qu'il y a, en France, je le signale, il y a un seul journaliste qui est un des animateurs du site Le Grand Soir, qui, depuis le début, prend la défense d'Assange. Mais chercher la défense d'Assange dans les grands médias, vous ne la trouverez pas. Donc on a des journaux qui sont entre les mains de leurs propriétaires capitalistes très très riches, qui ne font pas leur travail d'information qu'on attendrait d'un journal. Puisque ils vont, alors je ne sais pas ce qu'ils vont dire si jamais Assange est extradé, ce qui veut dire s'il est envoyé vers la mort, car c'est rien de plus que ça. Mmh. Il est déjà en très mauvaise santé, il va être très très maltraité dans les prisons aux États-Unis et il risque de mourir. C'est ça qui est recherché. Le faire taire et faire un exemple, surtout faire un exemple. Tout journaliste qui diffusera les vilainies du capitalisme libéral occidental sera passible d'une condamnation à mort. C'est ça que ça veut dire.
À
petit feu, voilà. C'est simplement une question de durée, c'est tout. Voilà. Je voulais le dire. Et puis, on a quelques minutes, quelques secondes. Faire un petit passage. Alors ça va être drôle, vous voyez. On va faire un petit passage par la Turquie. Alors, dans l'agitation extrême et permanente de M. Erdogan, dont je rappelle qu'il a clairement, dans toute une série de prises de position, mis en place une politique racialiste, fascisante. Il y a des vrais Turcs qui sont les bons et tous les gens qui sont sur ce territoire de la Turquie, qui ne sont pas Turcs dans le sang, je veux les tuer ou les mettre à la porte, ce qu'il fait avec les Turcs, ce qu'il ferait avec les Arméniens s'il en restait sur le territoire de la Turquie. Bon, ils sont partis, ceux qui ont survécu. Bon, mais la politique racialiste, ethniciste de M. Erdogan, elle est claire, elle est écrite. Bon. Il y a de l'opposition en Turquie, et c'est tant mieux. Cette opposition avait pris la forme, vous n'en avez pas entendu parler, à part ces derniers jours, puisque le dernier incident a concerné un monsieur qui s'appelle Osman Kavala. Alors Osman Kavala, ce n'est pas du tout un extrémiste, un journaliste en quête de scoop. C'est un monsieur qui a 64 ans, qui est un homme d'affaires turc, qui est né à Paris, qui a fait ses études en Angleterre, qui est revenu en Turquie après 82 pour faire marcher l'entreprise familiale, et qui depuis s'est passionné pour les milieux de la culture, pour la littérature, et il a aidé tous les mouvements, groupes qui avaient un travail dans ce sens-là. Bon, donc il n'a pas du tout attaqué le régime, ni M. Erdogan, mais M. Erdogan a trouvé qu'il avait eu un rôle. Vous savez, c'était il y a maintenant 8 ans, il y a eu des grandes manifestations à Istanbul, parce qu'il y avait une décision de construire toute une série d'immeubles, de faire un quartier neuf sur un parc public, un jardin public très grand, le plus grand, je crois, d'Istanbul. Et donc, il y avait une manifestation populaire de gens qui voulaient défendre le jardin public dans cette ville qui est champignonnante. Il faut voir, Istanbul, aujourd'hui, ça pousse dans tous les sens, et quelquefois sans permis de construire et tout. Bon. Et M. Erdogan, qui, on le sait, qui est teigneux, alors disons le mot, avait mis la responsabilité de toutes ces manifestations sur le dos de M. Kavala. C'est lui qui les a financés, c'est pas bien et tout. M. Kavala et quelques autres ont été inculpés, donc d'atteinte à l'ordre public, de volonté de renverser la République, pour défendre un jardin. Voilà. Ils sont passés en procès et ils ont été acquittés, au bout de 8 ans quand même. Donc c'était en deux. Oui. La justice va vite quand elle veut aller vite, mais pas toujours. Et donc, à l'issue de ce procès, ils ont été acquittés, dont M. Kavala lui-même. Le lendemain du jour où il était acquitté dans ce premier procès, on lui en a intenté un autre et il est à nouveau en prison. C'est-à-dire qu'il n'est même pas sorti de prison. Bon. Et donc maintenant, on lui a imputé d'autres crimes nouveaux, donc d'atteinte à la sûreté de l'État, etc. Bon. Ça a donné lieu, alors, un mouvement assez cocasse, c'est que il y a, à la suite de son emprisonnement, il y a eu des prises de position d'un certain nombre d'États de l'Union européenne, mais pas tous, je vais en donner la liste pour être bien précis, qui ont protesté. par rapport au mauvais traitement fait par Erdogan à M. Kavala. Alors, ces pays sont les États-Unis, qui sont les initiateurs de l'opération, la France, toujours prête, scout toujours prêt, j'allais dire, c'est presque ça, l'Allemagne, la Hollande, le Canada, la Finlande, la Suède, la Norvège, le Danemark et la Nouvelle-Zélande. Que diable allait-elle faire dans cette galère ? Bon. Qui ont dit c'est pas bien les mauvais traitements infligés à M. Kavala par la Turquie. À la suite de quoi, M. Erdogan a fait un coup de sang et il a demandé aux ambassadeurs de tous ces pays de quitter le territoire de la Turquie. Bon. Alors en fait, il y a eu une négociation et ces ambassadeurs ont reconnu qu'ils n'avaient pas du tout l'intention d'ingérence dans les affaires intérieures de la Turquie et ça s'est arrêté là. C'est-à-dire que la montagne, les gros mots de M. Akouchi a accouché d'une souris. Mais c'est très intéressant pour montrer que M. Erdogan a des coups de sang comme ça. Des coups de sang. Alors ça n'a tué personne, mais dans d'autres cas, ça peut tuer du monde. Hein, il ne se gêne pas là-dessus. Et M. Erdogan est fragile et inquiétant. Et c'est lui qui tient en partie l'avenir de la libération de la Syrie entre ses mains. Hein. Alors on peut imaginer que ce genre de choses lui donnera une leçon. Là, je pense que c'était pas plus...
Cette partie politique actuellement sont rassemblés. Ça fait partie de l'opposition, c'est nouveau ça.
Tout à fait. Et il faut savoir qu'il a une majorité étroite, et qu'il n'est pas sûr de gagner les prochaines élections. Ah. Donc il joue son va-tout. Oui, c'est l'heure.